Nous avons vu déjà la bienveillance de Dieu et ce dernier cantique disait « Ô Dieu, combien tu es grand !» Et c'est une grâce de connaître Dieu comme son Seigneur et Sauveur. Et nous voulons continuer à voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Et c'est dans le psaume 114 ce matin que nous allons voir la grandeur et la puissance du Dieu qui libère. Dieu est un Dieu sauveur. Il sauve en Jésus-Christ ceux qui placent leur confiance en lui. Le psaume 114. Psaume 114, verset 1. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir ? Jourdain, pour retourner en arrière. Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux ? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Voilà, c'est un psaume, c'est de la poésie hébraïque, et nous avons des fois du mal à saisir la richesse et la beauté de la poésie hébraïque, mais nous allons malgré tout pencher nos regards et voir ce que Dieu veut nous dire ce matin dans ce psaume. Le psaume 114 est un psaume important pour le peuple d'Israël. Il faisait partie de ce qu'on appelle le Hallel égyptien et qui était composé des psaumes 113 à 118. Hallel veut dire « louange » ou « louer ». Et Hallel égyptien, égyptien pour rappeler que le peuple d'Israël avait été libéré d'Égypte, pour parler de l'exode du pays d'Égypte. Le Hallel égyptien, les psaumes, les six psaumes, étaient chantés lors de la fête de Pâques pour célébrer la délivrance du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Le psaume 114 était aussi apprécié des protestants français du XVIe siècle, les Huguenots, qui l'entonnait fréquemment et avec joie, parce qu'il leur rappelait la grandeur et la puissance de Dieu qui les avait sauvés. Ce psaume donc célèbre le Dieu libérateur et nous rappelle trois facettes du Dieu qui a sauvé son peuple. Et nous allons voir tout d'abord la puissance de Dieu. Le psaume célèbre la puissance de Dieu, et la puissance de Dieu s'exerce à deux niveaux. Elle s'exerce d'abord sur les nations, et s'exerce ensuite sur la nature. Regardons le verset 1 et 2 qui nous montre la puissance de Dieu qui s'exerce sur les nations. Nous lisons « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. » La version Semeur dit « Quand Israël sortit d'Égypte, quand les descendants de Jacob quittèrent un peuple parlant une langue étrangère, Juda devint le sanctuaire de l'Éternel, Israël devint son domaine. » Nous rappelons que le peuple d'Israël a été opprimé longtemps par les Égyptiens, 400 ans environ, une des plus grandes nations, une des plus puissantes nations de l'époque. Le peuple d'Israël était absolument incapable de se sauver lui-même, de se libérer de cette oppression terrible. Et le roi d'Égypte, Pharaon, n'était pas du tout disposé à laisser s'en aller une main-d'œuvre aussi abondante, gratuite, corvéable à merci, corvéable à souhait. Mettez-vous à la place de ces Israélites qui étaient esclaves en Égypte, qui voyaient la puissance scientifique des Égyptiens, qui voyaient la puissance militaire, la puissance technologique, sa capacité à produire de grandes choses, des grandes compétences en matière d'architecture et dans bien d'autres domaines. On lit par exemple dans Actes chapitre 7 verset 22, je vous lis, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, il était puissant en parole et en œuvre. Moïse est un produit de cette nation très avancée, cette civilisation très avancée, il était puissant en sagesse, en connaissance, en science, en culture, et puissant en parole et en œuvre. Les enfants d'Israël, que pouvaient-ils faire? Ils ne pouvaient que gémir sous cette servitude, ils ne pouvaient que pousser des cris. Alors, qui pouvait sauver le peuple, la maison de Jacob, les descendants de Jacob, de ce peuple égyptien qui parlait une langue étrangère? Aucun homme parmi ceux d'Israël, ni notre nation, pouvait délivrer la maison de Jacob. Mais le Dieu de Jacob, l'Éternel, pouvait le délivrer. Prenons Exode chapitre 3. Prenez Exode avec moi, chapitre 3. Gardez toujours un doigt dans le psaume 114. Dieu avait prévu cette résistance du roi d'Égypte. Exode chapitre 3, à partir du verset 19. C'est Dieu qui parle à Moïse quand il a rencontré dans le buisson ardent. Donc Dieu parle et il dit au verset 19, Exode chapitre 3, verset 19, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. » Et qu'est-ce qu'il dit Dieu ?« J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. » Voilà Dieu qui dit que Pharaon ne va pas laisser le peuple s'en aller, mais qu'il faut qu'une main puissante agisse pour que le peuple soit libéré. On peut tourner les pages encore. Exode chapitre 6, juste on reste dans Exode. Et on lit un extrait du chapitre 6. C'est Dieu qui parle à Moïse et qui l'encourage. Donc le verset 6, Exode 6, 6. « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. » Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Voici, l'Éternel va étendre sa main pour que le peuple soit libéré. On peut regarder aussi dans Exode chapitre 13, pour voir combien cette insistance sur la... Nous avons chanté « Ô Dieu, tu es grand ». Eh bien, Exode chapitre 13, juste le verset 3, 9, 14 et 16. Verset 3, Moïse dit au peuple, donc Exode 13, 3, Moïse dit au peuple « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par la main puissante que l'Éternel vous a fait sortir ». Le verset 9 reprend la même idée. « Ce sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. » Et le verset 14, « Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Donc, le peuple d'Égypte était esclave, impossible de se sortir lui-même, ni impossible d'être sauvé par un quelconque homme, mais Dieu l'a fait sortir d'Égypte par sa main puissante. Et regardez maintenant ce peuple qui était esclave, on reprend le chapitre, le psaume 114, « Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Il nous a dit au verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. Alors qu'il était esclave des hommes, eh bien, il bénéficie, une fois sorti d'Égypte, de deux privilèges. Il nous a dit que Juda devint son sanctuaire. Le sanctuaire nous rappelle le temple. Le temple veut dire que Dieu est au milieu de son peuple. Voilà le premier privilège dont bénéficie Israël. Et ensuite, il nous a dit que Juda devint son domaine. Son domaine, ça veut dire que le peuple appartenait totalement à Dieu et à personne d'autre, alors qu'avant, il était esclave d'Égypte. On comprend pourquoi le peuple d'Israël aimait chanter le psaume 114 ou célébrer sa délivrance d'Égypte. On comprend aussi pourquoi les Huguenots, les protestants français, aient pu s'approprier les paroles de ce psaume. À cause de leur foi en Jésus-Christ, ils étaient persécutés par les catholiques, c'était au XVIe siècle, et dans une certaine mesure, ils étaient comme étrangers dans leur propre pays. En Jésus-Christ, ils avaient reçu une nouvelle identité. Par la puissance de Dieu, ils avaient été délivrés d'une vie de servitude et d'esclavage que connaissent tous ceux qui n'ont pas placé leur foi en Jésus-Christ pour le salut de leur âme. Parce que c'est en Christ seulement qu'on trouve le salut. Pas par nos œuvres, pas par notre religion, pas par notre rang social, nous l'avons rappelé ce matin, Tony l'a rappelé, mais par la foi seule en Jésus-Christ. Ils avaient été délivrés de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 13. Le psaume 114 célèbre donc la puissance de Dieu sur les nations. Dieu a délivré Israël d'une nation qui était plus puissante qu'elle, l'Égypte. Mais cela ne s'arrête pas là. La puissance de Dieu s'exerce aussi sur la nature. C'est ce que nous disent les versets 3 et 4. On lit... La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Voilà une façon poétique de rappeler l'histoire du peuple d'Israël. Et bien sûr, on voit d'abord la puissance de Dieu sur la mer. La mer le vit et s'enfuit. Ça rappelle la traversée de la mer Rouge, quand Dieu a agi sur la mer pour qu'elle laisse passer les enfants d'Israël à sec. Par la puissance de Dieu, les enfants d'Israël ont traversé la mer à sec. Exode chapitre 14, versets 21 et 29, nous lisons cela. Et puis nous lisons aussi au verset 3 que le Jourdain retourna en arrière. C'est un rappel de la traversée du Jourdain lorsque le peuple entrait dans Canaan, la terre promise. On va lire Josué chapitre 4. Pour voir qu'une fois de plus, la puissance de Dieu s'est exercée sur la nature pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir à l'égard de son peuple, le peuple qu'il a sauvé de l'esclavage. Josué, chapitre 4. Versets 20 à 24. Alors, on peut lire Josué chapitre 3, verset 14, et puis on lira 4. Donc, Josué chapitre 3, verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le Jourdain s'est séparé en deux, à l'époque de la moisson. Voyez, mettez-vous à la place d'un Israélite qui est devant le Jourdain. Mais comment on va traverser cela? On n'a pas de bateau, on n'a pas de sous-marin, il n'y a pas de passage à sec, il n'y a pas un bras de terre pour passer. Pareil devant la mer Rouge, et nous sommes des fois dans la même situation. Comment on va se sortir de ce problème, de cette difficulté? Il n'y a pas de moyens humains, il n'y a rien pour qu'on puisse s'en sortir. Eh bien, c'est la puissance de Dieu qui nous délivre. Et on continue en lisant. Alors, le peuple, nous sommes au fin du verset 16, le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Verset 17, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Et on tourne, donc, Josué chapitre 4, versets 20 à 24. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Ils avaient sorti 12 pierres du Jourdain, et ils avaient ramené ça à leur campement de base, Gilgal. Verset 21, il dit aux enfants d'Israël, « Lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres ? Vous en instruirez vos enfants et vous leur direz, « Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. » Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Voilà la puissance de Dieu sur la mer, la mer Rouge, la puissance de Dieu sur le Jourdain. On voit encore que la puissance de Dieu s'exerce sur les montagnes et les collines. C'est le verset 4 du psaume 114 qui nous dit ça. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Quand les agneaux sont tremblants, quand ils sont tout jeunes, ils n'ont pas encore une fermeté dans les jambes, ils tremblent. Eh bien, les montagnes et les collines tremblent. Exode chapitre 19, prenez avec moi, gardez un doigt. Exode chapitre 19, verset 18. Où nous retrouvons cet épisode qui est relaté dans le psaume 114. Donc, Exode 19, 18. Le mont, donc là, les enfants d'Israël se trouvent près du mont Sinaï, et Dieu va donner la loi. Et nous lisons le verset 18. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Toute la montagne tremblait avec violence. Malgré la stabilité, l'immuabilité que représente la montagne, les mers, les fleuves, on voit qu'ils agissent contrairement à la nature. On n'a jamais vu les montagnes sauter, on n'a jamais vu la mer qui s'ouvre en deux. Si le jour vous voyez, appelez-moi. On n'a jamais vu aucune rivière se couper en deux pour qu'on passe à sec. Pourquoi ça se passe ? C'est parce que la puissance de Dieu se manifeste. La création reste soumise à la volonté de Dieu, à la puissance de Dieu, à cause de ces mouvements surnaturels qui se manifestent là, lorsque Dieu apparaît avec son peuple. Et les versets 5 et 6 reprennent d'une façon poétique la même pensée des versets 3 et 4, versets 5 et 6, où la mer, les collines, les montagnes sont personnifiées. On leur pose une question. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir ? Jourdain, pour retourner en arrière ? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers ? Et vous, collines, comme des agneaux ? Cette personnification montre que la création reconnaît que Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Nous, les hommes qui avons été faits à l'image de Dieu, nous ne voyons pas la puissance de Dieu, sa bonté, alors que dans la création, nous devrions voir cette puissance de Dieu, sa bonté, sa grandeur. La nature reconnaît, elle, son créateur et sa puissance. La mer, les fleuves sont des éléments créés qui ne changent pas, et pourtant, ils connaissent la puissance de Dieu. En célébrant la puissance de Dieu, la puissance salvatrice de Dieu au profit de son peuple, le peuple d'Israël, le psaume 114 dirige notre regard ailleurs. Il dirige notre regard, le regard des chrétiens, vers l'œuvre de Christ. Pourquoi ? Parce que l'Ancien Testament tout entier parle de Christ. Et l'Ancien Testament trouve son accomplissement dans l'œuvre, dans la personne de Christ. La mort de Jésus-Christ, par exemple, est appelée Exode. Et dans Luc chapitre 9, verset 30 à 31, nous lisons, « Et voici, là ils sont, c'est la transfiguration, l'épisode de la transfiguration, « Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la gloire, parlaient de son départ. Son départ, c'est Exodus. Exodus en grec. L'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et la puissance de Dieu aussi s'est manifestée quand le Seigneur Jésus a été crucifié. La puissance de Dieu s'est manifestée pour vous montrer que Dieu tenait à cœur, Dieu avait à cœur cette crucifixion, que c'était quelque chose d'important, cette œuvre de Christ à la croix. On lit dans Matthieu, chapitre 27, verset 45, « Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire de midi à trois heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. » Tiens, de midi à trois heures, des ténèbres, ce n'est pas naturel, ça. C'est parce que Dieu a agi. Dieu est souverain sur sa création. Matthieu 27, 51 continue, « La terre trembla. » Tiens, la même chose que là. « Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. » La puissance de Dieu qui s'exerce sur la création, pour montrer l'importance de l'œuvre de Christ à la croix. Et encore la puissance de Dieu qui ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts et qui fait de lui le prince des rois de la terre. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Et Jésus est entré dans la Jérusalem céleste pour nous préparer une place dans ce qu'on peut appeler cette terre promise. Voyez, il y a cet exode du peuple d'Israël nous rappelle ce que Christ a fait pour nous, croyants. L'Israélite, comme le croyant qui traverse des difficultés, peut se demander d'où me viendra le secours. Est-ce que Dieu est vraiment le Dieu Tout-Puissant? Eh bien, le psaume 114 nous rappelle que Dieu est vraiment le Dieu qui sauve. L'Israélite a été délivré de l'Égypte, le croyant a été sauvé par l'œuvre de Christ. Dans un premier temps donc, le psaume 114 célèbre la puissance de Dieu. Puissance de Dieu sur les nations. Il n'y a aucune nation, aucun roi qui peut résister à la main de Dieu. Puissance de Dieu sur la création. Nous avons vu la mer, le Jourdain, les montagnes, les collines. Et on voit maintenant que le psaume 114 célèbre la présence de Dieu. Au verset 7, nous lisons « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. » Maintenant, toute la terre entière est concernée. Toute la terre doit trembler devant la puissance de Dieu. Toute la terre doit trembler devant l'Éternel, parce que c'est lui qui a fait des grandes choses pour son peuple. Le psaume d'ailleurs, 113, verset 4 à 6, nous dit, on peut lire juste à côté, le psaume 113, verset 4 à 6, « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec des grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. » Le Dieu règne d'une façon totale sur la terre. Mais vous voyez, s'il règne d'une façon totale sur la terre, toute la terre tremble devant lui pour reconnaître son autorité, sa souveraineté. Pour le peuple de Dieu, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dieu règne d'une façon particulière. On a vu qu'au verset 2, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. On voit que Dieu vit au milieu de son peuple, il est avec lui, il sanctifie son peuple, il en fait une nation sainte. C'est ce qu'on peut lire dans Exode, reprenons dans Exode, chapitre 19, versets 4 à 5. Exode chapitre 19, pour voir cela. Exode 19, versets 4 à 5. Vous avez vu, c'est Dieu qui parle, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. On a vu aussi dans le psaume 114, ça nous a été rappelé. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Pour les chrétiens, la présence de Dieu avec son peuple est avant tout manifestée en Jésus-Christ. Pour Israël, Dieu était au milieu de lui, le conduisant dans le désert, prononçant de lui. Pour nous, la présence de Dieu se manifeste en Jésus-Christ. C'est Matthieu qui nous dit que Jésus-Christ est appelé Emmanuel. Matthieu chapitre 1, ça veut dire que Dieu est avec nous. Et on peut lire dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dieu vit avec nous, Dieu vit en nous. Ce n'est qu'en Jésus-Christ que nous connaissons la pleine présence de Dieu avec son peuple, présence qui a été soulignée dans le psaume 114, dans les versets 1 et 2. » Après la puissance de Dieu sur les nations, la puissance de Dieu sur la nature, la présence de Dieu avec son peuple, le psaume 114 se termine par une troisième facette, un troisième aspect de Dieu, notre libérateur. C'est le verset 8 qui nous en parle, et je vous invite à reprendre le psaume 114, verset 8. Alors je lis le verset 7, « Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob. » Le verset 8 nous dit « Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. » Nous voyons là la provision de Dieu pour le peuple qu'il a libéré. Nous apprenons que notre Dieu est le Dieu qui change le rocher en eau, en étant, pardon, le roc en eau. Ça aussi, c'est contre nature. On n'a jamais vu de l'eau sortir du rocher ou le roc qui devient une source d'eau. Ce verset nous renvoie encore une fois à un moment de l'histoire du peuple d'Israël, à l'époque où le peuple campait à Réphidim. Et reprenons Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Et nous lisons Exode chapitre 17, versets 1 à 7. Toute l'assemblée des enfants d'Israël, partis du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouvera point d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple ?» Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Voilà. Une fois de plus, on voit que l'Éternel pourvoit aux besoins de son peuple, la provision de Dieu. Et cette partie du psaume nous dirige encore nos regards vers Christ. Et nous allons maintenant dans 1 Corinthiens, où l'apôtre Paul, parlant du peuple d'Israël, écrit aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Il changea le rocher en étang, le roc en source d'eau. Voilà, Jésus était le rocher dans le désert, d'où l'eau a jailli pour le peuple. Jésus est l'eau de vie. Et regardez ce que Jésus dit maintenant, c'était à l'époque d'Israël ça. Regardez ce que Jésus dit lui-même dans Jean, prenons Jean chapitre 7. Il nous dit à tous, aujourd'hui, nous qui sommes pécheurs, nous qui avons besoin d'être réconciliés avec Dieu et d'échapper à la colère de Dieu, d'échapper à l'esclavage du diable, d'échapper à l'esclavage du péché. Donc Jean chapitre 7, verset 7, verset 37, excusez-moi, Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulant de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Voilà, Dieu a toujours pourvu de l'eau de vie pour tous ceux qui se confient en lui. Il a toujours prévu de l'eau de vie en Jésus-Christ, même dans les airs. Voilà, ce rocher, c'était le Seigneur Jésus qui était là pour désaltérer le peuple. Le psaume 114 rappelle à Israël et aux huguenots du XVIe siècle que Dieu est celui qui nous délivre. C'est aussi un rappel pour nous aujourd'hui, croyants. Tant d'obstacles infranchissables se sont dressés devant le peuple d'Israël pour l'empêcher de jouir des promesses de Dieu. Il y avait la mer Rouge, il y avait le Jourdain, il y avait toutes ces montagnes, il y avait la puissance de l'Égypte, des montagnes, des obstacles infranchissables pour empêcher le peuple d'Israël de jouir des promesses de Dieu. Tous ces obstacles ont été balayés par la puissance de Dieu. L'homme n'y a rien fait. Dieu seul est intervenu par toute sa puissance. Tant d'obstacles se dressent aussi aujourd'hui devant nous, frères et sœurs, pour nous empêcher de jouir des promesses de Dieu. Ce sont des difficultés au travail, ce sont des critiques, ce sont toutes sortes de sentiments, d'échecs, de frustrations. Ce sont des changements dans notre vie qui nous pénalisent. Et chacun peut faire sa liste. Mais ce psaume nous rappelle que c'est Dieu qui nous délivre par sa puissance, par sa présence et par sa provision en notre faveur en Christ. Nous n'avons pas à chercher ailleurs qu'en lui le secours. C'est lui qui nous délivre donc par sa puissance, nous l'avons vu, par sa présence, nous l'avons vu, et par sa provision en Jésus-Christ. Faisons donc confiance à la parole de Dieu. Le psaume 114 rappelait d'une façon poétique cela au peuple d'Israël, aux huguenots et à nous qui sommes croyants, comme toute la Bible. Faisons confiance à l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Faisons confiance aussi à sa grâce. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Et je vous invite à prendre ce cantique qui dit « Vois mon Sauveur face à face », numéro 432 sur les ailes de la foi. On se tiendra debout si vous le voulez bien pour entonner ce cantique. Mon Sauveur, c'est Jésus-Christ. Si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, c'est votre Sauveur et il prend soin de vous jusqu'à la fin du monde. Cantique 432 sur les ailes de la foi. Vois mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa beauté, aux joies, aux suprêmes grâces, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai d'où viendra. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi.